Nous allons reprendre notre réflexion sur le deuxième sujet, des personnes, des espaces. Vous avez remarqué que le troisième sera des espaces, des œuvres, ce qui me laisse penser que Séverine et Élise ont sans doute beaucoup joué aux dominos quand elles étaient petites. Donc, c'est des publics, des personnes, puis des personnes, des espaces, puis des espaces, des œuvres. Voilà, donc à chaque fois, on enchaîne avec un lien avec la table ronde précédente. Bon, pour cette table ronde, je vais commencer à droite. Daniel Payet, donc universitaire à Nantes, maître de conférence habilité à diriger des recherches, c'est comme ça qu'on dit, qui fut vice-présidente à l'action culturelle ou à la culture,
culture
de l'université de Nantes et qui travaille spécialement sur l'interculturalité et sur les interactions entre professions dans le domaine de la culture et du social. En témoigne l'article qu'elle a publié dans l'Observatoire de politique culturelle, dans la revue de l'Observatoire de politique culturelle, une des récentes livraisons qui était de l'hiver dernier. Alors là, je suis obligé d'avoir mes notes. C'est comment faire œuvre, œuvrer ensemble, artistes, pros de la culture, enfin, professionnels de la culture, acteurs du champ social et citoyens. Et elle vient de diriger un livre qui est sorti cet été sous l'appellation Participation et médiation aux éditions L'Armatan. Voilà pour Daniel Payet, mais elle aura l'occasion d'approfondir ses thèmes de recherche. À ses côtés, Julia Lemery, aujourd'hui chargée de mission culture à la Fondation OVE, œuvre des villages d'enfants, qui a également exercé pendant quelques mois l'intérim de la direction d'interstice, qui a exercé également dans un hôpital psychiatrique à Aix-en-Provence où elle s'est occupée de résidences d'artistes, de faire la médiatrice, voilà. Et puis elle a bien d'autres choses, mais elle le dira. À ses côtés, François Vérune, qu'on a entendu ce matin, danseur, chorégraphe, qui intervient depuis bien longtemps dans des projets où il fait se rencontrer des êtres sujets, comme il disait, avec notamment, vient d'être mis en ligne sur YouTube, un magnifique film de Jérémy Aubert sur une action qui a été menée à l'EHPAD Volubilis à Décines, c'est ça, vraiment très beau film. Et puis, donc, il est à Grenoble et il dirige la compagnie 47-49 qui se produit un peu partout, à Séoul, au Portugal, et même en Auvergne-Rhône-Alpes. Virginie Heck, à ses côtés, directrice de la bibliothèque municipale La Cassagne qui ouvrira au début de l'année 2017, voilà, installé à côté du campus professionnel là, sur le site de l'ancienne usine Rocher-Schneider, plus connue sous le nom de Friche RVI dans le monde artistique, ex-Friche RVI. Voilà, donc, et Virginie est par ailleurs aussi la présidente de la section Rhône-Alpes de l'Association des bibliothécaires français, la célèbre ABF. Et cette table ronde est donc modérée, comme on dit, par Monsieur le Président d'Interstice, Philippe Rager, qu'on a entendu ce matin, par ailleurs, donc directeur de relations publiques à la Comédie de Valence, Centre dramatique national, Drôme Ardèche. Philippe.
Oui, pardon. Oui, donc avant de laisser chacun se présenter, donc on va avoir rapidement une présentation pour que chacun situe un peu l'endroit d'où il parle avant d'entamer les discussions autour de cette table ronde des personnes, des espaces sur la création et les rencontres, la création dans des espaces non dédiés. Pour des gens qui ne s'y attendent pas. Je cite, je crois, un passage de Daniel Payet, si je ne me trompe pas.
Oui, sûrement.
Il me semble. Oui, sûrement. avec peut-être, je le dis tout de suite, avec, on fera trois points, on divisera ça sur la question de l'espace, la question du temps et la question des règles du jeu. Mais j'y reviendrai au fur et à mesure. J'ai juste envie de dire un tout petit mot, pardon, j'abuse de la situation, mais c'est moi qui ai le micro. Pour dire, en fait, de remettre un peu la place d'où je suis moi-même et de dire que je travaille dans un lieu de création, j'avais envie de remettre un peu la place de l'artiste, donc, par rapport aux discussions qu'il y a eu tout à l'heure entre artiste et public, et il me semble que c'est vraiment une relation assez fondamentale, avec deux points que j'ai envie de dire, comme ça, un peu dans le désordre. Quand, dans un lieu de création comme le CDN, quand Richard Bonnel, par exemple, crée un spectacle, en fait, il ne fait pas de sondage auprès de moi pour savoir si ce spectacle va bien marcher, s'il va toucher telle tranche de public. En fait, ce lieu de création et le fait que l'artiste crée un texte où on se dit des moments où là, c'est pas forcément simple, n'engage pas forcément de sectorisation ensuite, de se dire on va parler à tel ou tel. Il fait des spectacles, et comme disait François tout à l'heure, c'est pas grave, quoi. Enfin, il fait des spectacles, et à nous de mettre en face le public. Là aussi, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est dit tout à l'heure, quand on disait qu'on ne naît pas spectateur, on le devient devant une œuvre. Et ça, c'est donc le deuxième corollaire. J'ai envie de dire qu'on le devient devant un geste artistique au moment où ça se fait, mais s'il n'y a pas de spectateurs, appelons-les comme on veut, s'il n'y a pas de gens, il n'y a pas d'œuvre non plus. Donc c'est pour ça que cette relation me paraît fondamentale. Et une dernière petite chose, Cécilia, tu disais que tu n'aimais pas la danse. Alors moi, je vais dire aussi quelque chose que je n'aime pas. Je n'aime pas le mot médiation, hein, soyons clairs. J'ai toujours l'impression, quand on me dit qu'il y a une médiation, qu'il y a un problème, en fait, qu'on va régler un problème entre l'artiste et le spectateur. Et du coup, pour ce que j'en vois, en fait, je voulais dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. En fait, il n'y a pas de problème, en fait. Quand un artiste rencontre des gens, même de manière fortuite, ou même dans une salle, dans ces horreurs de salle, en fait, ça se passe bien, d'une manière générale. Les gens savent encore s'entendre. Il y a cette question de rencontre humaine qui est extrêmement importante. Concrètement, ça marche. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Il y a parfois un manque de circulation des œuvres, des gens, des artistes. Et il y a sans doute parfois un manque d'imagination.
Voilà.
Ceci étant dit, maintenant, je vais demander... alors, est-ce qu'on commence après tout ce que j'ai dit ? Ça se fait pas, hein, parce que je commence par l'homme d'ici, mais on va commencer par l'artiste, et je vais te laisser te présenter.
Bonjour.
Bonjour à tous. Donc, si vous voulez, on peut déjà commencer à se mettre debout et puis rouler les épaules pour pouvoir respirer quelque peu.
Oh non,
merci. Merci, Cécilia. Un peu de... Voilà. Non, mais ça va, c'est sans danger, hein. Je n'ai strictement rien à vendre, hein. Je vous propose simplement de respirer quelques secondes, et puis après vous faites comme vous voulez, hein. Surtout comme vous voulez.
Donc juste, on va rouler les épaules par devant, là. Donc le devant, c'est devant, c'est-à-dire que pour nous, c'est derrière. Hein. Là, et puis simplement, c'est les épaules qui vous conduisent vers le haut, essayez d'être circulaire, c'est-à-dire qu'on pourrait monter, descendre. Là, je vous propose de circuler vers devant, vers en haut, et puis d'ouvrir les bronches, enfin, ou le sternum, ou enfin le quatrième chakra, enfin comme vous voulez, pour que ça dépend comment on voit les choses. Et on recommence, si vous voulez bien. Et avec la respiration, donc je me tais. Et je expire. Et je vous propose dans le sens inverse, si c'est possible, en inspirant. Ah, super, c'est un bon début. Revient debout, voilà, c'est ça. Parce que le principe, c'est de pouvoir être ancré dans le sol tout en ayant la tête dans le ciel. Donc le ciel, c'est là-haut, la terre, c'est en bas. Donc ça va être un peu la clé de ce que je vais essayer de vous développer. Je vous remercie.
Alors, Michel a parlé du lien par rapport à ce matin. Donc je vais me permettre de rebondir avec un petit peu par rapport à l'intervention que je me suis permis de faire. C'est-à-dire que j'aimerais en fait que du fond du cœur en fait, qu'on ne crée pas une dichotomie entre il y a des artistes, donc il y a la culture avec un grand C, avec l'art avec un grand A, et puis il y a les kidam, et puis c'est bien parce qu'ils payent leur place, et donc ça permet d'entretenir une caste fermée. Donc l'idée, c'est pas de s'excuser de danser ou de jouer ou de faire des arts plastiques, c'est juste finalement assumer, faire des choix. Donc en l'occurrence, je vous parle de ma vie et de moi, mais c'est faire des choix et tenter de les assumer. Comme ça, si on est bien ancré dans le ciel, dans le sol, je reprends d'être ancré dans le sol pour pouvoir finalement être dans ses baskets, dans le langage courant, de sorte que finalement, assumer les choix qu'on tente de mettre en œuvre dans sa vie. Donc moi, j'essaye modestement d'assumer le fait que je suis chorégraphe et directeur artistique d'une compagnie, et qu'à partir de là, ça simplifie les choses. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas de culpabilité à vous faire partager ce que je fais. Il y a des gens qui vont aimer, des autres non. Et là encore, comme disait Philippe, c'est pas du tout grave. Donc je disais tout à l'heure, je n'ai rien à vendre. C'est-à-dire, j'essaie de vous faire partager un point de vue singulier, et donc j'essaie d'assumer mes responsabilités. Et à partir de là, les choses, même si c'est super compliqué, tout ça est un chemin de vie. Nobody is perfect. Donc l'idée, c'est que ça se fait peu à peu. Et à partir de là, il y a des êtres humains. Donc ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est la question de l'être en tant que sujet, d'être plus dans une disposition d'accueillir et de ne pas subir, accueillir et rester digne, et donc se tire le fil comme ça de cette responsabilité que j'essaye de décliner et de transposer dans le champ gravitaire, c'est-à-dire les trois dimensions de l'espace. Donc le poids, comme Newton nous l'a montré, il descend. Il nous permet d'aller vers le sol. Et donc, comment on va jouer avec le champ gravitaire, donc soit, justement, si je ne veux pas subir pour ne pas me sentir écrasé, sauf si je le décide, et éventuellement, comme l'herbe qui pousse, je vais m'ériger vers le ciel. Et donc, on arrive dans un paradoxe de l'herbe, qui est que, vous savez, elle peut traverser le goudron, donc avec une puissance phénoménale, et en même temps, un petit écrasement du pied, et l'herbe disparaît. C'est un peu la philosophie de mon travail, c'est-à-dire de finalement d'aller aussi bien à la rencontre de monsieur et madame tout le monde, et aussi dans le sens inverse, de jouer dans des lieux où les gens viennent nous voir. Donc il y a cet aller-retour incessant entre aller vers et laisser venir. Et c'est là que je... Donc ça veut dire que... je ne sais plus où on suit... Cet aller-retour incessant permet en fait d'apaiser en fait les choses et de placer la question sur le plan de l'être. Alors après, moi, j'ai un médium, c'est le champ chorégraphique, et à partir de là, comme j'envisage finalement la question de la création et de l'action culturelle, l'action artistique, comme deux alter ego, ça me permet de jouer dans mon bac à sable, dans cet aller vers et laisser venir. Et donc à partir de là, Ça simplifie grandement les choses. Parce que rapidement, si je tirais le fil de ce que j'avais compris ce matin, à un moment donné, on va aller vers des choses qui me font un peu frissonner, c'est-à-dire l'échec de la politique culturelle, l'échec de la démocratie culturelle, et puis après, on jette le bébé avec l'eau du bain, et alors après, qu'est-ce qui reste? Alors, si vous avez des solutions, je suis preneur, et je vais passer la parole à mes collègues.
Alors, je vais peut-être juste redonner quelques explications parce que chargé de mission, culture, village, œuvre, enfant, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? OVE, donc, c'est en fait une fondation depuis quelques années, mais c'était avant une association avec une longue histoire, née après-guerre, qui a en fait pris en charge des enfants qui étaient victimes de guerre à la sortie du conflit, en proposant de les recueillir et de proposer un temps de soins et un temps éducatif. Donc c'est né dans un certain nombre d'établissements qui étaient du côté de la Savoie ou de Savoie. Et aujourd'hui, c'est un organisme qui s'est développé, qui gère des établissements médico-sociaux, encore fortement ancrés sur cette dimension d'accueil d'enfants et d'adolescents, mais il y a aussi des établissements qui accueillent des adultes et qui ont la particularité d'être en situation de handicap, et donc de voir à travers la prise en compte de leurs besoins, comment on peut, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la formation, sur le plan des projets quels qu'ils soient, les accompagner. Donc la Fondation OVE gère aujourd'hui 72 établissements et services. C'est un gros organisme qui a son siège à Vaux-en-Velin, mais qui a tout un ensemble d'entités réparties sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, voire même au-delà. Et donc, a décidé, il y a un peu plus de 2 ans et demi, de créer une mission culture. Alors, comme ce matin, j'ai entendu les mots d'impérialisme et de surtout pas prétendre avoir inventé les choses alors qu'il y en a qui le font depuis très longtemps. L'idée, c'était pas de créer une mission culture qui va apporter la culture ou qui va se mettre enfin à faire de la culture dans les établissements et services, mais plutôt créer une mission ressource qui va déjà prendre en compte ce qui existe déjà dans nos établissements et services mais qui n'était pas partagé à l'échelle de la Fondation en termes de pratiques, en termes de façon de faire, et aussi des difficultés auxquelles ils sont confrontés et auxquelles on pourrait répondre à travers cette mission ressource. Donc le rôle de la mission culture OVE, c'est vraiment d'accompagner des projets qui émergent des équipes éducatives, d'être aussi force de proposition sur des programmes qui seront plutôt inter-établissements sur une thématique qui sera partagée, et d'animer des temps d'échange, de réflexion entre professionnels sur des questions qui traversent ces projets-là. Donc voilà, ça c'est peut-être pour repréciser d'où je parle. Et puis peut-être qu'on pourra revenir après sur la question des espaces, mais parmi les choses qu'on a développées ces dernières années, il y a l'accueil d'artistes en résidence et qui vient questionner justement cet espace qu'on va partager et quel sens on peut bien mettre à cette présence étrangère dans nos murs. Voilà.
Bonjour à vous. Un des défis des droits culturels, c'est de changer les représentations en présence, les représentations qu'ont des personnes, des citoyens, des habitants, des spectateurs, selon le rôle qu'ils incarnent à un moment de leur vie. Et comme j'ai été présentée comme universitaire, je vais vous proposer une petite audace. J'ai besoin de vous et que vous vous mettiez debout, s'il vous plaît. Une toute petite proposition qui permet l'écoute intérieure et donc l'écoute extérieure. Ça s'appelle calmer le dragon. C'est extrêmement simple. Vous allez juste me regarder et nous allons le faire ensemble parce que l'ensemble, bien sûr, est essentiel, notamment dans les droits culturels.
C'est aussi de sentir le sol sous vos pieds, comme tout à l'heure. Nous sommes toujours dans cette verticalité. Et calmer le dragon, c'est juste de, en inspirant, de lever les bras et de les redescendre le plus lentement possible, réapprendre la lenteur. Je vous propose de le faire encore 2 fois pour vous-même, dans votre voyage intérieur. Merci pour votre magnifique contribution.
C'est juste pour vous dire les défis qui sont les nôtres, interpeller, créer la surprise. Et j'aimerais parler depuis l'espace de mes engagements, de mes convictions, qui s'inscrivent entre le penser et l'agir, et qui s'appuient sur la question de la médiation. J'ai forgé petit à petit la conviction que la médiation avait un rôle essentiel. Mais qu'est-ce que ça veut dire médiation? C'est une mise en lien, c'est une mise en relation, mise en lien avec soi-même, avec les autres, avec l'altérité, avec les ressources d'un territoire. Et donc c'est bien plus une approche plurielle des médiations à hauteur d'un territoire, c'est-à-dire qu'un territoire a des ressources. Il y a des institutions culturelles, il y a des centres médico-sociaux, il y a des maisons de quartier, il y a des associations, il y a des individus qui, à un moment, ont envie de s'engager. Et donc, c'est sur ces mises en lien que je travaille, que j'accompagne des professionnels à travers différentes actions. Et cela, en particulier, pour permettre un lien fragile, mais fondamental et vital et essentiel, entre les personnes en situation de précarité et non pas les personnes précaires, les personnes en situation de précarité qui donc souvent présentent des signes de santé psychologique psychiques fragiles. Donc permettre les liens entre ces personnes en situation de précarité et différentes formes de culture. Là encore, les pluriels s'invitent. Donc ce que nous défendons, c'est que finalement la médiation, les médiations, peuvent avoir différentes origines dans ces mises en lien de différentes ressources. Ça peut émaner au départ d'une institution culturelle, mais aussi d'acteurs sociaux, d'acteurs médico-sociaux qui ont un besoin de culture dans leur dynamique, des associations, des habitants. Donc ça interroge finalement, mais qu'est-ce qui fait médiation? Et tout de suite après arrive le comment on fait médiation. Je vais juste très rapidement donner deux exemples de processus que nous accompagnons. Par exemple, Angers Nantes Opéra, qui est donc une des grandes institutions à Nantes, qui souhaite, elle aussi, consolider, ouvrir ce lien avec les personnes en situation de précarité, dites éloignées, mais on ne sait pas éloignées de quoi d'ailleurs, c'est un terme assez étrange. En tout cas, elle rencontre, cette institution culturelle, le besoin d'un EHPAD qui souhaite... à identifier auprès des personnes accueillies ce besoin d'ouverture, de partage. Et donc le metteur en scène qui est accueilli en résidence au sein d'Angers Nantes Opéra va à la rencontre de ces personnes au sein de l'EHPAD, à la fois les soignés et les soignants, et émerge petit à petit le souhait des personnes accueillies dans cette EHPAD de chanter en lien avec la programmation. C'était Verdi à l'époque, et donc il y a une chorale qui se met en place. Les ressources pour accompagner cette chorale viennent d'Angers Nantes Opéra, et puis un besoin d'atelier d'écriture. Donc là on mobilise la capacité de pratique de ces personnes, et puis quelques mois plus tard, après avoir partagé, après avoir été rassurés sur leur capacité à être accueillis au sein de l'opéra, eh bien, ces personnes iront voir une représentation et en seront émues pour le reste du bout de vie qu'il leur reste à vivre. Elles se sont senties accueillies, elles se sont senties attendues. On voit là, dans cet exemple, les principaux ingrédients. Il y a plus de... Les principaux ingrédients, excusez-moi, c'est moi qui ai joué avec le micro. Les principaux ingrédients de ce qui fait médiation à hauteur d'un territoire. Je voudrais juste donner un autre exemple, parce que là, ça part d'une institution. Un deuxième exemple sur lequel on a beaucoup œuvré, ce sont des habitants dans un quartier dit défavorisé de Nantes qui expriment le besoin de juste avoir un lieu où on ne va rien leur demander. Juste un lieu où ils peuvent ne pas venir. Mais peut-être venir juste lire le journal, juste boire un café, juste ne pas rencontrer son voisin. Et donc, les travailleurs sociaux qui accompagnent ce groupe, qui sont à l'écoute, décident d'ouvrir ce lieu en responsabilisant ces habitants qui, petit à petit, expriment un besoin de, notamment, aller à la Folle Journée, alors que la Folle Journée, qui est ce festival de musique classique, et dans une logique de distribution de places gratuites, en disant « allez-y, vous avez besoin de ça, vous avez envie d'y aller ». Eux, ils ne prennent pas. Ils ont décidé à ma place, donc je ne prends pas ces places gratuites. Par contre, que la demande vienne d'eux pour dire « ok, nous avons envie d'aller vers la Folle Journée, mais au préalable, on va être accompagné pour dessiner notre vision de Schubert, parce que c'est le musicien qui est invité cette année-là pour les Folles Journées. On va dessiner, on va écrire, on va créer un journal qui va raconter la vie de Schubert telle que vue par les habitants de notre quartier. Là encore, ils iront à la Folle Journée. C'est tout un processus d'accompagnement en se sentant respectés, parce que c'était leur demande au départ. Donc si je me permets ces deux exemples, c'est pour dire que ça, je vais juste illustrer ce que ça traduit, ce que ça fait chez les personnes qui ont participé à ces processus. L'une d'elles nous a livré une phrase magnifique qui est « Je suis devenue plus moi-même ». Mais aussi, on a entendu que, certes, ça marche et les salles se remplissent quelquefois, mais avec qui? Avec quelle réelle diversité de présence, de profil de personnes en termes sociodémographiques? Juste un exemple qui est frappant et qui nous dit tout le chemin qu'on a encore tout ça à faire, et nous sommes tous engagés pour ça. Une personne qui n'était jamais allée voir un spectacle vivant dans une institution culturelle, qui avait été invitée par l'un de ses meilleurs amis pour le jour de son anniversaire. Donc cette personne a déjà trouvé le moyen de traverser la ville, de rentrer, d'être à l'heure, d'être habillée telle qu'elle imagine qu'on attend d'elle qu'elle soit habillée, qu'elle ait imaginé aussi quels étaient les codes de ce moment-là. Et donc cette personne rentre dans la salle, s'installe, et ressent une telle émotion qu'elle ressort parce qu'elle ne s'est pas sentie accueillie, parce que c'était trop impressionnant pour elle. Donc voilà, ce sont juste des éléments que je mets en miroir pour dire notre contribution. Et je vais m'arrêter là-dessus juste pour dire que les formes d'engagement que nous avons, ce sont des formations actions où nous accompagnons des groupes mixtes de travailleurs du champ médico-social, des professionnels du champ de la culture, des habitants, à un moment il faut bien les nommer, mais qui sont aussi bénévoles dans des associations ou pas, mais qui sont citoyens et qui sont juste intéressés par c'est quoi la médiation culturelle, comment on la fait, de quoi ça parle, qu'est-ce que c'est. Et des artistes qui, durant 10 mois, une fois par mois, on part de ce qui ne marche pas et on essaye, on cherche ensemble avec chacun nos visions. Ce sont aussi des recherches-actions avec des institutions culturelles, des maisons de quartier, des structures médico-sociales où on observe ce que ça fait à chaque fois qu'on invente un nouveau dispositif. Et puis, des animations de réseaux d'acteurs sur un même territoire. C'est-à-dire qu'il y a encore une fois des institutions, des associations, des ressources en présence. Et dans un temps où les moyens financiers sont plus contraints, c'est plus la question des mises en relation, des mises en synergie autour, c'est ce qu'on a évoqué ce midi avec Michel, autour d'objectifs partagés et rendus explicites, parce qu'on ne part pas et on ne parle pas du même endroit, mais finalement au service de quoi est-ce qu'on s'engage? Et là les valeurs jouent un rôle essentiel, des valeurs intrinsèques, des valeurs extrinsèques de la culture, mais c'est le ciment qui créer ces dynamiques à hauteur de territoire. Et donc on anime ces mises en relation pour plus de mise en lien. Voilà une vision de la médiation plurielle.
Bonjour à tous. Alors moi je vais vous demander de rester assis bien confortablement. Comme une des postures que l'on souhaite pour les usagers des bibliothèques. Je vais vous dire quelques mots sur la Bibliothèque municipale de Lyon. Donc, c'est un réseau de 15 bibliothèques aujourd'hui et donc une 16e bibliothèque qui est en cours de construction ou en cours de finition, puisqu'on devrait ouvrir début 2017, donc un nouvel équipement de 1000 m². Et cette nouvelle bibliothèque, en fait, est construite à peu près en même temps que 2 autres bibliothèques, toujours sur le territoire de Lyon, qui, elles, remplaceront des anciens équipements jugés trop vieux. Donc voilà, déjà, je tenais à souligner qu'on avait trois projets de nouvelles bibliothèques à la ville de Lyon. Et ces nouvelles bibliothèques, justement, sont construites sur un nouveau modèle, que je détaillerai probablement un peu plus tard. Et donc cette année, j'ai travaillé avec une petite équipe qui s'est étoffée au fil du temps, notamment beaucoup sur la question de l'espace. On a réfléchi à l'organisation de l'espace de cette bibliothèque en fonction des usages. Et donc voilà, des questions de mobilier, d'organisation des collections, mais surtout de la circulation des flux, de la cohabitation des usagers, puisque c'est le terme qu'on utilise en bibliothèque pour parler des différents publics. Et puis, ce que je voulais rappeler, ou en tout cas dire, parce que j'ai vu qu'il y avait finalement assez peu de bibliothécaires dans cette assemblée, c'était rappeler les missions des bibliothèques publiques selon une charte écrite, un manifeste rédigé par l'UNESCO, qui est l'accès pour chacun, pour tous, à la connaissance et notamment au développement culturel. Et je tenais à souligner ça parce que je pense que les bibliothèques et les bibliothécaires aujourd'hui sont des médiateurs entre la création, l'information et le public, les usagers. Alors si le mot médiateur, médiation est peut-être pas pas appréciée, ou on peut aussi parler de bibliothécaire passeur ou facilitateur. Voilà, c'est aussi d'autres idées qui peuvent remplacer le terme de médiateur.
C'était tout à fait personnel. Hein. On sait bien que les mots peuvent recouvrir des réalités totalement différentes. Il y a d'ailleurs effectivement des très belles choses écrites sur la dynamique circulaire de la médiation que j'ai beaucoup appréciée. Je vais essayer de cadrer un peu cette table ronde, hein, qui est quand même, ça ne va pas être simple, j'ai l'impression, mais c'est aussi ça peut-être son intérêt. Donc on va essayer de faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire de parler d'abord de la question plus particulièrement de l'espace. Et du coup, d'évoquer ces différents espaces, certains parlent de hors scène, justement, de troisième lieu. François Véron dit une chose, parle d'interstice, ça tombe bien, entre l'objet chorégraphique en train de se développer et les personnes en train de regarder. Donc on va commencer tout de suite, je vous laisse la parole. Peut-être on peut commencer par le troisième lieu.
Je ne sais pas si c'est un concept qui est... connu par tous, donc juste pour un petit rappel, le troisième lieu, en fait, c'est un concept qui a été développé par un sociologue dans les années 80, un sociologue américain, pour des filles qui s'appellerait Oldenburg, et qui était en fait la définition d'un lieu, du lieu de la rencontre, du lieu accessible à tous et sans aucune discrimination sociale. Et il donnait comme exemple le bistrot, le pub, la sortie de l'église ou le marché, enfin vraiment le lieu public dans lequel tout le monde peut venir. Dans les années 2000 ou même 2010, ce terme petit à petit a été approprié par les bibliothèques. Et donc la bibliothèque troisième lieu, c'est bien sûr une histoire d'espace. Comment faire des bibliothèques aujourd'hui un lieu où les gens aient envie de venir et surtout aient envie de rester. En France, les pourcentages de fréquentation des bibliothèques, on a 17% seulement des Français qui sont inscrits dans les bibliothèques. Il y a plus d'usagers non inscrits, mais voilà, on a un taux de fréquentation qui est moins important, on va dire, que dans les pays nordiques. Et donc, les bibliothèques françaises se sont aussi beaucoup interrogées sur les espaces de ces bibliothèques nordiques qui avaient une très très forte fréquentation. Et donc, on est sur des espaces avec un mobilier confortable, des publics qui sont amenés à venir, à rester, soit pour travailler, soit pour discuter, jouer. Voilà. Le troisième lieu, c'est pas que une histoire d'espace, c'est aussi une histoire d'accueil. Et là, on revient à la médiation. Ça veut dire que c'est aussi des personnels, en l'occurrence des bibliothécaires, qui accueillent et qui font de ce lieu un endroit convivial, joyeux, chaleureux, où chacun est accueilli, l'enfant, la personne âgée, le clochard, l'étudiant qui vient travailler, ou le jeune qui a envie de faire une partie de jeu vidéo. Le troisième axe de la bibliothèque troisième lieu, c'est l'usager, puisqu'en fait la bibliothèque troisième lieu, elle est construite par l'usager. Et là, on va repartir sur un terme qu'on a évoqué ce matin et qui agaçait aussi certaines personnes, qui est le participatif. C'est quelque chose qui est aussi très présent dans les bibliothèques. On parle de co-construction de collections. On parle de collaboration sur la proposition d'animation, d'action culturelle. Il y a même également des projets de construction de bibliothèques qui sont élaborés avec les publics, pour les publics.
Oui, non, je vois bien qu'en fait, dès qu'on parle de quelque chose, on essaye d'attraper autre chose. Donc, ne vous contraignez pas sur ces trois. Si bien avec la question de l'espace, et François, quand tu vas parler effectivement de ces espaces en tant qu'artiste, enfin, ou interstitiel, tu peux parler aussi de la question du temps et des règles du jeu. Allons-y, hein, surtout que je crois qu'on est un petit peu en retard.
Merci. Oui, effectivement, un concept qui s'est développé dans les années 60 avec Cunningham et John Cage, Cunningham chorégraphe, John Cage compositeur. Il y a l'histoire la question du timing, donc c'est ce rapport à cette alchimie entre un espace dans lequel va se passer l'action et son déroulement dans le temps. Et effectivement, pour qu'il y ait un moteur, il faut qu'il y ait, à mon sens, alors on peut appeler ça une situation, une règle du jeu. Bref, il faut pouvoir jouer dans le bac à ça pendant un temps qui est donné. Et alors, par rapport à cette question posée juste avant, c'est-à-dire au-delà de l'espace d'un temps et d'une règle du jeu, initialement, au fond, il y a la question du projet. Et moi, ce qui va me faire lever le matin, c'est quel projet en regard de mon projet originel, qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette alchimie entre création et action artistique, action culturelle. Donc effectivement, chaque projet s'inscrit en filigrane dans, finalement, l'objet artistique, la dynamique artistique que j'anime depuis 25 ans. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, il y a une compagnie, il y a un groupe, il y a un collège de personnes avec lesquelles on réfléchit pour essayer d'arriver à développer avec exigence, toujours plus loin, les enjeux chorégraphiques qui vont être mis en jeu. Et ces enjeux chorégraphiques qui sont intrinsèquement liés dans une problématique de l'être. Comme nous sommes tous des êtres, ce qui m'intéresse, c'est comment, en fait, je vais pouvoir valider également, donc sur un plateau, dans un studio, et aussi dans l'espace, dans le tiers espace, dans le troisième espace, c'est-à-dire se permettre d'aller à la rencontre des gens avec notre art. Donc ça veut dire que pour qu'un projet puisse fonctionner, il fait, à mon sens, c'est que d'abord, un, ça donne envie, c'est-à-dire qu'il y a la question du désir, donc que ça pétille, et je crois beaucoup à la question de l'intelligence collective, donc c'est comment ensemble on est moins con, au fond. Donc à partir de là, c'est, si je cite un exemple, le projet qu'on vient de, enfin, dans lequel on est en cours. On a évoqué tout à l'heure, Michel a évoqué les pads au Volubilis à Dessine. C'est une rencontre extraordinaire, il y a 3 ans, entre la directrice de cet EHPAD, Isabelle Zanola, et qui vient me rencontrer à un moment donné avec Mondob, et on papote pendant 2 heures. Et au final, on arrive à faire une esquisse d'un projet possible. Là-dessus, on était aussi également en partenariat avec le Toboggan à Dessine, donc, qui est un théâtre, un lieu culturel à Dessine. Et donc, on est arrivé à créer une synergie magnifique entre ces trois protagonistes, la compagnie, le théâtre, cet EHPAD. Et à partir de là, la question des valeurs, en fait, elle s'est posée d'emblée, en fait, puisque à un moment donné, on s'est mis d'accord. Ça veut dire qu'on partageait, dans le fond, à chacun, à l'endroit où on se situait, nos fonctions différentes, on avait un en commun de valeurs qui a permis à la fois de poser un cadre et en même temps de s'accorder une confiance mutuelle en regard de ce que nous sommes de manière différente. Donc l'idée, c'est la question qui est posée, de ça j'adore parler d'interstice, c'est-à-dire la question de la relation, c'est pas la fusion, ça veut dire que chacun, à l'endroit où on est, on peut arriver, ancré dans le sol, tête dans le ciel, à pouvoir se situer, à pouvoir engager un projet qui correspond à ce que nous sommes, et qu'à partir de là, les conditions favorables de la rencontre, si les valeurs, donc on parlerait à ce moment-là plutôt d'espace horizontal, on va partager des valeurs, chaque protagoniste étant verticalisé, donc debout, on peut arriver comme ça à tricoter de manière, comme si on tricotait dans l'espace, entre le plan horizontal, la relation, et l'être sous son plan, sur un axe, sur l'axe vertical. Et à partir de là, on peut arriver en toute sérénité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des doutes, des peurs, etc., à bâtir quelque chose à la fois au service de nos valeurs et qui peuvent être, à ce moment-là, si on les assume, éventuellement partageables. Et donc, à Dessine, qu'est-ce qui se passe? C'est que le projet se décline en 3 volets. On va danser dans une unité dite Alzheimer, une unité fermée. On va aussi, par ailleurs, danser dans un deuxième temps dans l'espace, on va dire, plus public, hein, donc le hall des Volubilis. Et puis, l'après-midi, on travaille plutôt dans les chambres des patients. Et donc cette déclinaison, elle s'est faite petit à petit, enfin en réalisant déjà, moi en comprenant comment était architecturé les volubilis, et ensuite de pouvoir s'adresser à des endroits différents. Parce que ce qui est intéressant, c'est que si vous dansez devant 1200 personnes, c'est pas pareil que quand vous dansez devant une personne qui est alitée en soins palliatifs. Ça a à la fois rien à voir, mais en même temps, je pense que dès qu'il y a un spectateur, il y a les conditions favorables de la rencontre qui est possible. C'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas la question de la quantité de personnes, mais plutôt la nature même de l'intensité de ce qui va se jouer à ce moment-là. Et là, petit à petit, se découle de manière un peu plus apaisée cette question, est-ce que je fais des spectacles dans des salles avec une haute technologie, avec des conditions extrêmement... adapté au spectacle vivant. Et est-ce que ça me ferme pour autant des portes pour aller à la rencontre dans un EHPAD, mais aussi, comme je peux le faire, en prison, dans un CHU, dans la montagne, dans un musée? En fait, la question ne se pose pas. Ce qui va se poser, c'est la nature même du projet. Donc, est-ce que ça pétille? Est-ce que ça pétille pas? Est-ce qu'on peut arriver à co-construire pour se mettre d'accord sur un nom commun et à partir de là, déplier le projet?
Du coup, je vais peut-être rebondir quand je faisais référence tout à l'heure à un projet particulier, alors qui ne représente pas tous les types d'actions et les modalités d'intervention qui se passent dans tous nos établissements, mais c'est vrai qu'on s'est lancé depuis plusieurs années dans une réflexion et une expérimentation autour d'accueil d'artistes en résidence. Cette histoire de résidence, elle est venue de façon un peu particulière. On avait des établissements qui avaient l'habitude de penser des projets à partir d'analyses de besoins. Quand on parlait d'où partent les projets, nous, ils peuvent partir de multiples faisceaux, de multiples personnes, de multiples fonctions. Il n'y a pas quelqu'un qui est détenteur de la première initiative culturelle, il y en a qui partent de plusieurs endroits. Donc on peut avoir des projets qui partent d'éducateurs, des projets qui partent d'une infirmière, des projets qui partent d'une directrice adjointe, des projets qui partent de la mission culture. Et l'idée, c'est de pouvoir un peu faire sens avec tout ça. Et c'est vrai qu'on avait quand même des habitudes de projet où il y avait une première analyse à partir de besoins particuliers liés à des personnes qu'on accompagnait sur le plan éducatif, sur le plan de la confiance en soi, de la capacité d'expression, de pouvoir avoir un retour à soi-même parce que des fois on s'oublie. Et qu'à partir de ça, on allait chercher une ressource extérieure qui allait pouvoir correspondre, en tout cas avec qui on allait pouvoir discuter à partir de ce premier constat-là. L'histoire des résidences n'est pas exactement la même chose. C'est des artistes qui sont venus frapper à la porte, qui se sont invités, entre guillemets, qui n'étaient pas forcément attendus, qui avaient, en fait, alors j'ai deux cas, il se trouve que ça s'est passé à peu près au même moment au niveau de ces dernières années et qui coïncidaient avec la création de la mission culture. D'un côté, on avait une troupe de clowns qui était en recherche d'espace pour travailler. Parce que c'est aussi un questionnement de où est-ce que les artistes peuvent travailler aujourd'hui, quels sont les équipements qui peuvent leur permettre d'avoir un endroit où ils peuvent répéter. Et il se trouve qu'ils ont ils se sont fait le pari en se disant, est-ce qu'on pourrait pas frapper la porte d'un IME pour, pendant une semaine, poser nos valises, nos costumes, etc., et prendre le temps de répéter sur des formes sur lesquelles on est censé travailler, et en retour de ça, à la fin, proposer une intervention en contexte par rapport à ce qui s'était un peu passé sur cette semaine de résidence ensemble. Mais le point de départ, c'est vraiment une initiative qui est partie de la compagnie elle-même, qui a rencontré une directrice adjointe, qui s'est dit, bon, il y a quelque chose à saisir, mais il va falloir que je mette du sens à cette présence, je ne l'avais pas déjà pensé. C'était pas au départ de mon histoire, ça, je me le retrouve entre les mains, il va falloir que je fabrique le sens, et si possible avec mon équipe, parce que sinon, ça ne va pas trop fonctionner. Dans le même temps, on a eu un peu la même histoire avec une plasticienne qui était sélectionnée dans le cadre, alors pour le coup, d'une résidence, mais d'une résidence de territoire, qui devait être amenée à intervenir dans un certain nombre d'écoles, d'établissements scolaires, de collèges, et qui en fait était en recherche d'un espace, je reviens à cette question d'espace de travail, mais et qui, sur cette commune, qui est une commune assez rurale, où il n'y a pas nécessairement d'équipement de théâtre à proximité, ou d'endroits où poser de galeries ou de musées sur lesquels elle peut s'appuyer pour trouver un espace pour créer l'exposition qui est attendue en fin de résidence, a levé les yeux au ciel, a vu un château au loin, s'est dit mais qu'est-ce qui se passe dans ce château? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de négocier quelque chose? Parce que ça s'est vraiment passé comme ça. Et donc elle s'est retrouvée à frapper à la porte du château en question, à rencontrer la directrice adjointe et à dire est-ce que je peux pendant une semaine, 15 jours, poser les cartons, les outils qui vont me permettre de terminer cette exposition que je veux présenter en fin de résidence sur le territoire, en l'occurrence le territoire de La Rochette, c'est là où ça se passait. Donc voilà, le point de départ, là, c'est quand même l'idée que c'est des artistes qui viennent frapper à la porte et qui n'étaient pas forcément attendus. Et comment on va fabriquer le sens à partir de quelque chose qui n'était pas tout de suite dans les habitudes de nos équipes, tout de suite dans le programme de l'année. Donc ce qui demande d'avoir pas mal de discussions, de temps de débat, de se dire cette présence, comment on va pouvoir inventer, comment ça va pouvoir fonctionner. Et en fait, en faisant l'expérience elle-même, c'est-à-dire que vraiment, encore une fois, ce n'est pas une injonction qui a dit maintenant les établissements médico-sociaux, faites des résidences et inventez. C'était là, ça s'est créé par l'expérience elle-même, les conditions, comment on va poser le cadre, quand est-ce qu'elle intervient, quand est-ce qu'elle n'intervient pas, pendant combien de temps, qu'est-ce qu'elle va montrer à la fin. Et de cette expérience-là, en fait, ben, on a eu un premier sujet d'échange entre directeurs à l'échelle de notre gros organisme sur un sujet culturel en disant, si vous vous retrouvez avec cette même sollicitation, comment on y répond ? Qu'est-ce qu'on peut répondre comme cadre commun ? Comment on peut réfléchir à ça ? Ce qui nous a amené, en fait, à prendre un vrai temps avec différents professionnels pour se replacer sur, finalement, la résidence, quel sens on peut y donner, comment on peut la définir. Comment on peut choisir des artistes pour venir chez nous et pour faire quoi. Ce qui fait qu'au départ, on avait vraiment la question d'un partage d'espace et c'est devenu la question de la co-construction d'un projet, d'arriver jusqu'à cette dimension-là. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé un peu, je le dis aussi, se coltiner quelques textes qui existaient sur cette question de résidence en se disant, tiens, ça vient pas de nulle part, le ministère de la Culture y a déjà réfléchi, le ministère de l'Éducation nationale, on voit passer des appels à projets, sur des appels à résidence dans des hôpitaux, sur comment nous, cette question d'un espace partagé, on va s'en saisir, on va s'inventer notre propre cadre. Une fois qu'on a réfléchi à une première mouture, on s'est dit, faut la tester. Je pense que ça c'est quelque chose qui revient pas mal dans les échanges aussi, c'est l'idée de s'autoriser à tester des choses et à se rendre compte si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas pour repenser le cadre sur la fois suivante. Donc là on s'est dit faut qu'on teste quelque chose, donc en partant sur une thématique commune, en l'occurrence, alors plus ou moins consciemment on est parti sur quelque chose où on s'est dit on se met déjà une épine dans le pied parce qu'on a choisi de partir avec des designers en résidence alors qu'on avait dit que c'était un accueil d'artistes en résidence, et on a eu de grands débats sur est-ce que le designer est artiste ou pas. On se dit, on commence déjà très bien cette histoire-là, mais je pense que inconsciemment, ce pourquoi on est parti dans cette question designer, c'est parce que c'est des gens qui allaient travailler à partir de quelque chose de très quotidien, qui sont justement ces fameux espaces et ces fameux objets qu'on manipule tous les jours et qu'on pourrait réinventer, re-questionner ensemble les équipes, les jeunes qu'on accueille et puis le designer qui est avec nous. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé un peu à réfléchir sur cette question de l'espace partagé à travers l'expérimentation d'un premier programme de résidence. Voilà.
Non, c'est pas des tiers. On va peut-être essayer d'utiliser deux minutes
pour aller plus vite. Donc, d'accord. Alors, si je reprends le cadre qui nous a été donné, c'est en investissant le cadre qu'on est créatif. Donc je respecte les trois temps qui nous sont proposés. Donc la question de l'espace, au regard de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, sans surprise, l'espace quand on parle de médiation systémique, c'est évidemment l'espace devient celui du territoire qui donc génère un contexte particulier. Et sur ce territoire, il y a des ressources, il y a des acteurs pivots que sont les institutions. Il y a les lieux dédiés à la culture, mais aussi tous ces lieux non dédiés et évidemment l'espace public. Et tout ça constitue, comme François l'a évoqué, l'espace de jeu possible, l'espace d'invention, l'espace de test. Tout est que modeste tentative et réessai, mais en tirant à chaque fois le plus possible les enseignements. Et c'est pour ça que nous mêlons cette idée d'action et de relecture de cette mise en regard du penser et de l'agir. Donc l'espace est celui de la mise en lien des ressources en présence et aussi dans une perspective, je vais prononcer un vilain mot, de développement durable. En tout cas, qu'est-ce que nous dit le développement durable ? C'est qu'il faut tenter de faire mieux avec moins ou en tout cas avec ce qui est en présence. Donc la mise en synergie, la mise en relation des ressources, encore une fois au service d'objectifs partagés, ça permet de une forme, j'ose aussi un autre vilain mot, d'efficacité dans l'action, même si on ne sait pas forcément quels sont les objectifs précisément qu'on va atteindre. En tout cas, on peut identifier différents types de besoins auxquels on va chercher à répondre. Ça peut être juste, déjà, et c'est immense, c'est intense en termes de projets collectifs, de projets sociaux, de permettre aux personnes à nouveau de ressortir de chez elles. Pour les personnes en situation de précarité, c'est déjà un saut énorme de se reconfronter à l'espace public, au regard des autres, à son voisin, encore une fois. Ça peut être aussi se sentir mieux avec soi-même, avec son corps, de recontacter, de remobiliser sa capacité à imaginer, à rêver, alors que ce sont des personnes qui ont été abîmées par la vie. C'est aussi juste donner la possibilité aux personnes de ressentir du plaisir. Et dans une société judéo-chrétienne et pour des personnes en situation de précarité qui ne devraient pas trop avoir droit à la notion de loisir, ça interroge. Et donc aussi identifier le besoin de se réouvrir en douceur à l'autre, à l'altérité, à la différence, à l'autre qui quelquefois est insupportable parce qu'il nous renvoie à nous-mêmes. Donc tout ça interroge finalement l'espace, mais pourquoi faire, à quel type de besoin on répond, et surtout d'accepter que la culture puisse avoir ces effets élargis qui vont du lien à soi jusqu'au lien social pour permettre un échange. Et justement, on travaille sur des duos qui sont terribles pour nous en tant que praticiens, pour nous tous. C'est tout ce qui a été évoqué ce matin, comment on réconcilie, comment on fait dialoguer sans les opposer. La question de l'accès à une œuvre constituée qui ne doit pas être opposée à la question d'être partie prenante à un processus de création. C'est aussi réconcilier, faire le lien à travers ces différentes formes de médiation à hauteur d'un territoire, de la question qui a été évoquée beaucoup ce matin, est-ce qu'on est récepteur, consommateur, voire pas du tout récepteur, jamais, en n'allant pas vers les lieux. Par rapport à son miroir qui est d'être participant, contributeur, d'être un pratiquant. Donc est-ce qu'on devrait opposer cela? Et à travers les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, on voit que on peut être à la fois dans une pratique qui va nous emmener à un moment vers le fait de goûter à une représentation, à une œuvre constituée dans un lieu sacré, dédié. Voilà, c'est aussi la mise en œuvre de ces médiations à hauteur d'un territoire. Jouer sur deux types d'apports, à la fois en termes de connaissances, des apports cognitifs, mais aussi des expériences sensibles qui peuvent cohabiter. C'est aussi faire cohabiter, mettre en lien la compétence professionnelle des artistes, parce que c'est la grande limite de ce qui est interrogé dans les démarches participatives. Qui est artiste ? Donc c'est faire le lien entre la compétence professionnelle des artistes et le potentiel créatif présent en chacun. Et là, on reconnaît une des postures, notamment des droits culturels. C'est aussi faire le lien entre une culture légitimée, celle légitimée par les experts et qui est présente dans les institutions, et aussi, encore une fois, la culture dont chacun est porteur. C'est l'idée, j'en arrive au deuxième point, de la question du temps, de faire le lien entre des expériences ponctuelles. J'assiste, je suis présent avec une forme de présence active quand j'assiste à une représentation, par rapport à cette idée de parcours accompagné des personnes. Et là, on travaille beaucoup avec ces acteurs de proximité que sont les acteurs sociaux qui sont mobilisés pour accompagner les personnes tout au long de ce processus. Donc, peut-être que si on regarde aussi la question du temps, c'est de se dire qu'on passe de l'idée de la rencontre ponctuelle à celle de la relation qui va s'étirer dans le temps. Et c'est donc de cette manière-là qu'il peut y avoir une circulation du sens, qui est une des définitions de la culture qui est proposée notamment dans le cadre des droits culturels, qui me semble à la fois simple et efficace. Et la médiation définie comme un processus de réception, mais aussi d'appropriation du sens. Donc comment on permet cette circulation, et donc ça reste de toute façon, comme ça a été évoqué, à la fois des engagements simples, mais déterminés et soutenus par la vision de cette contribution large de la culture dans le lien social à reconstruire qui est fragile.
Alors, dans la question du temps, effectivement, je l'évoquais tout à l'heure, enfin, il y a la question effectivement de l'ouverture d'un certain nombre de représentations, je le disais tout à l'heure, de ces fameuses représentations scolaires que nous on refuse, enfin, toute cette idée justement que tout soit partageable, donc à des horaires partageables par tous, et je crois que cette question agite les bibliothèques aussi. Juste un petit mot là-dessus, on est vraiment...
Donc effectivement, la question des horaires d'ouverture des bibliothèques a beaucoup agité la profession et continue de le faire, notamment dans l'idée de la bibliothèque troisième lieu qui devient le lieu de rencontre et du lien social. Si on veut que les publics s'y rencontrent, il faut qu'elle soit ouverte à des moments où les publics sont disponibles. Donc en France, on a une moyenne de 14 heures d'ouverture par semaine pour les bibliothèques. Donc ça varie de 10 heures par semaine à 40 heures en fonction de la taille des bibliothèques et des collectivités. C'est une vraie question donc pour le public. C'est une question qui remue la profession parce que ça touche au quotidien des agents qui travaillent dans les bibliothèques. Ouvrir le dimanche, ouvrir en soirée, ouvrir plus tard... pour juste donner l'exemple de la future bibliothèque La Cassagne, on a beaucoup travaillé sur les horaires en équipe et en lien avec le public. Donc on a participé à des réunions de concertation avec les habitants du quartier et pour répondre à la fois aux habitudes, aux pratiques des habitants, on va proposer ce qui ne se fait pas sur le réseau lyonnais, une ouverture en nocturne toutes les semaines jusqu'à 21h. Parce qu'on a constaté qu'une grosse partie des résidents du quartier étaient des résidents qui travaillaient dans un autre quartier la journée. Et donc, si on fermait à 19h, on avait beaucoup de chance pour que la bibliothèque soit fermée quand ils rentraient dans leur quartier. Donc voilà, on va proposer cette nocturne et puis des ouvertures sur le temps de midi pour répondre aussi aux étudiants du campus dont parlait Michel tout à l'heure, donc parce qu'on est vraiment à côté d'un campus professionnel où il y a 6000 étudiants, donc on espère qu'ils viendront, et du coup on a pensé les horaires aussi pour eux.
Alors on va vite passer à la question de la dernière question des règles du jeu. Et j'ai envie qu'on parle justement dans ces règles du jeu de effectivement comment ça se passe, en tout cas dans ces formes qui sont créées dans ces espaces interstitiels. Et peut-être, François, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut parler aussi de la commande à l'artiste? D'où ça vient, tout ça? Je laisse là.
Alors, la commande peut être extrêmement féconde, hein, parce qu'on ne s'y attend pas. Quelqu'un vous appelle et a envie. Et donc, encore une fois, l'envie est souvent extrêmement intéressante. Puis après, c'est de voir de quelle envie il s'agit et après dans quel projet on peut engager. La question de la règle du jeu, donc aussi on peut le décliner avec le mot cadre, est extrêmement importante. C'est-à-dire que avoir des contraintes dans la création est extrêmement fécond. En fait. C'est-à-dire que grosso modo, c'est comme si j'étais un petit peu en demande de me créer mes propres limites, mes propres contraintes, de sorte à, comme un enfant, je vais jouer avec ces contraintes, les détourner, passer par-dessous, il n'y a pas de place pour passer par la fenêtre, je passe par le soupirail, enfin bref, essayer de trouver des solutions créatives et donc par là ne moins subir la situation dans laquelle je me situe. Et typiquement, quand on a travaillé pendant 3 ans au centre médical Roche-Plane, le directeur qui m'avait pour le coup sollicité pour intervenir en soins palliatifs, donc pendant 2 ans et demi, chaque semaine, à peu près 45 semaines dans l'année, 2 personnes de la compagnie venaient intervenir en soins palliatifs là au 3e étage à Saint-Hilaire-du-Touvet. Et effectivement, donc ce projet, je l'ai appelé au pied du lit, et vous dansez effectivement dans des espaces qui font entre 9 et 12 mètres carrés. Donc ça, c'est pour le danseur, ça peut être extrêmement, aliénant, frustrant. Et ça peut être extrêmement ludique. Et de quelle ludique il s'agit? C'est-à-dire qu'en soins palliatifs, vous avez des gens, il nous est arrivé des choses assez, comment dirais-je, extrêmes, au sens, à un moment donné, vous dansez, puis la personne peut décéder quand vous dansez. Donc, c'est pas, on ne joue pas aux Indiens, quoi. C'est-à-dire qu'on touche la question vraiment du respect de soi, du respect de l'autre, question donc de la dignité, si vous avez la famille qui est impliquée là-dedans. Ça peut être extrêmement, extrêmement, comment dirais-je, complexe. Donc au départ, moi, étant extrêmement, enfin, voilà, en 92, je me disais, c'est un, par rapport à la question de l'épreuve, ce que j'appelle l'épreuve du réel, c'est-à-dire de me dire, c'est très fécond de pouvoir travailler dans des conditions, comme je disais tout à l'heure, dans un studio, dans un théâtre. Et après, comment, en fait, comme le pollen, on peut arriver à polliniser l'espace autour, en étant modeste, mais sans rien lâcher. Et donc, à partir de là, dès que vous allez dans l'espace d'une chambre d'un patient, est-ce qu'on y va pour se faire plaisir? Est-ce que c'est parce que j'ai une méga culpabilité vis-à-vis de moi-même, donc la culture judéo-chrétienne qui était évoquée tout à l'heure? Donc, de par là, finalement, je vais essayer de résoudre ma part de psychanalyse en allant à l'hôpital. Alors, en fait, c'était pas du tout ça. C'était de se dire... Si vous voulez, quand vous êtes préoccupé par la question de la souffrance, de l'enfermement, quel qu'il soit, hein, par la souffrance, mais aussi par les murs qu'on peut se constituer, souvent on les fabrique tout seul, mais aussi dans une prison, dans un hôpital, bah, effectivement, quand vous êtes alité et qu'on vous propose de prendre vos cachets, bah, vous n'allez pas dire non. En revanche, quand vous allez danser dans une chambre d'un patient, ce qui est extraordinaire, c'est que la personne peut dire non. Elle peut ne pas aimer du tout ce que vous allez lui proposer. Bref, c'est essayer... J'en ai parlé déjà plusieurs fois, c'est de la mettre en situation de sujet. Donc, comment arriver à créer les conditions favorables? Donc, quelles règles du jeu on peut arriver à s'établir pour arriver à, quand vous allez taper, frapper à la porte d'une chambre de quelqu'un qui est malade, très malade, au crépuscule de sa vie, vous rentrez dans son espace, des fois elle ne vous répond pas, vous rentrez, et puis vous voyez, vous lui parlez, des fois la personne ne vous répond pas. Et comment vous allez estimer, en conscience ou en inconscience, arriver à oser, finalement, proposer un moment chorégraphique, une petite forme chorégraphique au pied du lit. Donc ça, c'est des questions, enfin, je n'ai pas de réponse. Ça a à voir avec une question sensible, en fait. C'est-à-dire que je me suis rendu compte au départ, avec maximum de déontologie, avant d'arriver dans, le jeudi après-midi à Roche-Plane, je demandais en fait aux équipes, donc médecins et infirmiers, de baliser le terrain, quelle chambre on pouvait aller, etc. Et un jour, passant d'une chambre à l'autre, je vois une infirmière extrêmement excédée, parce que surmenée, et elle avait bien raison d'être excédée à ce moment-là, et elle me dit « Ouais, vous voulez que je rentre ?» Et puis je leur demande si vous voulez danser, si vous pouvez danser. Et donc elle rentre en furie dans la porte, « Vous voulez voir la danse ?» Et là, je me suis dit « Merde, on reprend. C'est pas possible. C'est pas possible. » Parce qu'elle comprenait qu'on était soi-disant les danseuses du directeur de l'établissement. Comment ça s'appelle, enfin, bref, de Roche-Plane. Et donc l'idée, c'était tout fou, quoi. Mais à l'époque, donc il n'y avait pas ces questions qui sont quand même ouvertes comme ce séminaire aujourd'hui, c'est-à-dire partage d'expérience, cadrage, rien n'était fait. Et nous, on y allait avec notre objet de création, avec notre bonne intention, mais vous savez tous que l'enfer n'est pas des bonnes intentions. Donc, on était comme ça dans une frange extrêmement délicate. Et donc, c'est là où on a commencé à se dire, il faudrait être supervisé par un psy, donc on s'est fait aider, etc., pour arriver à cadrer un peu qu'est-ce qui se passe dont on parlait de mystère tout à l'heure. Il y a un mystère autour de la question du vivant, il y a des mystères au niveau du vivant, au niveau de la mort, et comment on se balade dans tout ça pour que jamais on ne déroge à l'enjeu artistique qui va se poser dans ces chambres. Parce qu'on n'est pas là pour... Moi, je ne suis pas là pour faire de l'animation au sens négatif du terme, c'est-à-dire faire du babysitting ou faire de l'agitation chorégraphique. Et donc, arriver à se positionner avec notre art dans un endroit qui, a priori, n'est pas forcément approprié dans ces conditions topologiques et d'humanité. Et bien, peu à peu, on a appris à gérer cet espace sensible. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que dès qu'il y a une once de vie, les choses sont possibles, la transformation est possible, voire la métamorphose. Et on assiste encore aujourd'hui à des choses extraordinaires où l'épreuve du réel prend tout son sens, non pas dans une dimension morale, mais dans une dimension d'émancipation finalement humaine. Donc vive la vie.
Au fond, c'est ça la question, effectivement, comment, quelles règles du jeu mettre en place pour que l'artiste puisse faire son travail dans une artiste dans ces conditions-là. Voilà. Et je ne sais pas, je regarde, je me tourne, on vous laisse combien 5 minutes pour dire 2-3 choses là-dessus avant de rendre la parole.
Non, non. Ah, ça recommence.
Non, c'est en fait, juste allumer. Non, en plus, je pense que je vais essayer d'éviter de redire, mais l'importance que les choses soient discutées en amont, alors ce qui voilà, n'empêchera pas que les choses inattendues arrivent, et heureusement, mais il n'empêche que de pouvoir questionner cette présence avant qu'elle soit là est quelque chose de très intéressant, y compris, et pas uniquement en termes d'organisation purement horaire et espace, ça va se passer telle heure à tel endroit, mais de redire quel est le sens de cette présence-là, qu'est-ce que cette personne va venir faire. Et notamment sur le plan du contenu artistique, se dire que c'est pas que l'apanage ou la responsabilité d'une chargée de mission culture ou d'un chargé de projet culturel de maîtriser la partie artistique et aux éducateurs de gérer l'organisationnel. En fait, il faut que tout le monde soit partie prenante du contenu même de l'action, sinon ça va pas fonctionner. Et il se trouve que notamment dans le cahier des charges des résidences, nous, tout l'enjeu a été de dire il faut pas que ce soit une unique écriture de ma part. Il faut que ce soit une écriture, entre guillemets, la plus collaborative possible entre une part du cadre dont je suis garante en termes au niveau de la fondation, mais aussi là où chacun des établissements participants pouvait trouver sa place pour définir cette présence qu'il attend, pour définir cet espace qu'il va offrir et définir un peu les conditions de rencontre qu'il veut bien tester avec le designer. Et juste pour terminer sur la question du temps, parce que je sais qu'il n'y en a plus, mais je pense que quand on parlait aussi de la question du tiers-lieu, je crois qu'il y a la question du tiers-temps qu'il faudrait poser. Parce que moi, je me suis souvent retrouvée, et je pense à ça parce que je vois Xavier Saïki, qui est un musicien intervenant, qui a travaillé sur un de nos musiciens créateurs, qui a intervenu sur un de nos projets. Et il y a Alice aussi du Périscope, qui était notre structure culturelle partenaire sur ce projet. Et on a eu une réunion de bilan il n'y a pas longtemps, et je crois qu'une des questions qui était au cœur de comment on fabrique ensemble quelque chose, c'était comment on se ménage des temps qui permettent à la fois de respecter le rythme de ce service, qui est en l'occurrence un CESAT, Georges Séguin sur Vaux-en-Velin, qui a un rapport au temps qui est d'une logique de séquençage minuté, parce qu'il faut accompagner le jeune à tel endroit, le récupérer à tel autre, le ramener à tel autre. Et au milieu de ça, nous, on voulait faire en sorte qu'il y ait une appropriation de ces étapes de création où il faut qu'il y ait une part de lâcher prise, où il faut qu'il y ait une part de marge qui soit laissée pour que des choses émergent. Et sur ce séquençage-là, c'était très très compliqué. Et pour nous, ça a été très intéressant parce que les professionnels se sont dit d'eux-mêmes, la prochaine fois, peut-être on va proposer un autre rapport au temps qui va venir bousculer notre façon de travailler, mais qui nous intéresse aussi. Donc du coup, je me dis, sur cette question du temps, j'ai l'impression qu'il y a aussi un enjeu de tiers-temps par rapport à nos temps habituels.
Je vais me permettre d'en rajouter une petite couche. Je pense qu'il y a de l'eau, donc c'est bientôt
inondé.
Oui. Et là, pour le coup, quand je disais qu'un projet, ça se co-construit et qu'il y a besoin de partager des valeurs, je vais revenir à l'exemple précédent concernant les Volubilis à l'EHPAD, au Volubilis à Décines. Par exemple, la directrice, donc, vraiment prend à bras le corps ce projet et fait deux choses essentielles pour essayer de mettre un peu de frein à main, ralentir l'écoulement du temps. Elle prend du personnel supplémentaire chaque fois qu'on vient passer la journée dans son EHPAD. De sorte à faire quoi ? De sorte à créer des moments de partage en début d'après-midi avec le personnel, pour pouvoir échanger sur ce qui s'est traversé dans la matinée et comment ça se projette dans l'après-midi et la fois future où on va revenir. Et puis... le fait de pouvoir mettre aussi le personnel de soignants au même endroit que les usagers de l'EHPAD, c'est-à-dire en clair dans les chambres, les personnes qui peuvent se rendre disponibles et venir aussi partager l'expérience chorégraphique dans la chambre ou dans l'espace public ou dans l'espace protégé pour les personnes en situation d'Alzheimer. C'est-à-dire, c'est de pouvoir vraiment mettre finalement au même endroit à la fois les patients usagers de l'EHPAD et le personnel. Et donc, à partir de là, on travaille une autre triangulation où vraiment, il n'y a plus de rapport soignant-soigné. Il y a des rapports, on va partager une expérience chorégraphique particulière. Et donc ça, ça nécessite effectivement un peu de moyens pour prendre du personnel supplémentaire, mais c'est extrêmement fécond.
Daniel Payet, deux minutes.
Oui, même moins.
Juste pour illustrer la question des règles du jeu, je voudrais simplement prendre l'exemple d'une des formations actions que nous faisons avec les acteurs artistiques, culturels et sociaux, qui est un temps suspendu dans ce qu'ils nous disent. Nous faisons intervenir en début de formation, donc une formation qui dure plusieurs mois, une dizaine de mois comme je vous le disais, un danseur qui nous fait faire des mouvements dansés pour identifier quels sont les quatre points structurants, les quatre nœuds de ces règles du jeu pour avancer vers une meilleure compréhension de ce qui fait médiation et de comment concrètement on les met en place. On illustre avec nos corps, seul ou en interaction avec les autres, la question de la place, parce que développer des médiations à hauteur d'un territoire, c'est que chacun doit trouver sa place depuis l'habitant, en passant par l'acteur social, l'acteur culturel, l'artiste. Donc quelle est la place de chacun? C'est une forme de reconnaissance de chacun. La question du maillage des ressources en présence au service d'objectifs communs, le processus d'écoute, écoute de soi, justement avec des temps de respiration aussi, d'écoute de l'autre, et puis la question de l'accueil qui est fondamentale, un processus de médiation qui commence par ces enjeux d'accueil, comme je l'illustrais tout à l'heure, comment donne-t-on, adresse-t-on le signe de tu es accueilli, tu es bienvenu. Voilà, donc, et tout cela contribue aux fameuses médiations circulaires dont on parlait. Je m'arrête là.
Oui. André Ferté, c'est ma fort. J'ai entendu beaucoup le mot de projet. Est-ce que il est, la question s'adresse à tous les intervenants, est-ce qu'il n'est pas important de s'interroger sur l'articulation entre une offre culturelle sur projet et une offre culturelle dans le cadre du droit commun? Parce qu'on constate en France, en effet, l'émergence forte, et par centaines de milliers, de citoyens, finalement, qui, par exemple, pour accéder aux livres, à la lecture, au spectacle, à une pratique artistique, ils vont avoir accès à ces pratiques s'il y a des projets. Et s'il n'y a pas de projet, ou quand le projet est fini, ils n'y ont plus accès. Et qui dit accès dans le cadre du droit commun, ça veut dire qu'il y a une pérennité de l'offre. En tant qu'habitant, on n'attend pas que la bibliothèque, pendant 15 jours, ait un projet, voilà, elle est ouverte en permanence, avec certains horaires, certes. Pareil pour des cours de musique, de danse, d'art plastique, etc. Il y a une offre permanente. Donc voilà, donc est-ce qu'il n'y a pas une question, y compris pour les artistes, en termes de déontologie professionnelle, à s'interroger sur le fait que le projet s'arrête à un moment donné, il n'a pas de pérennité, ça ne veut pas dire qu'il a une très grande richesse, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pétillant, comme certains l'ont évoqué, mais en termes de politique publique, est-ce qu'on ne doit pas s'interroger sur de quelle manière une offre culturelle sur projet doit s'articuler avec une offre culturelle dans le cadre du droit commun? Merci.
Est-ce que Julia, j'ai l'impression, brûle de répondre à cette question? Donc on va lui donner un micro.
Je brûle.
De préparer la suivante.
Mais après, il y avait l'artiste qui était questionné aussi. Alors, je vais rebondir sur aussi l'exemple de projet. Donc, on avait avec effectivement un projet avec des musiciens autour d'un processus de création qui a eu un début et une fin, mais qui a été mis en place avec un partenaire culturel qui est le Périscope, qui est un lieu, qui est un équipement qui durera, qui existait avant le projet et qui durera après. Et c'est vrai que des fois, ça peut être, enfin, nous on espère en tout cas que ce soit prétexte à ce qu'après l'accompagnement puisse se faire d'une autre manière pour que les personnes fréquentent le lieu. On a eu aussi le cas du conservatoire dans lequel une partie des activités se passait. Ce soit aussi le lieu dans lequel ils puissent avoir des pratiques, je dirais, autres, indépendamment d'une logique de projet, et je dirais même au-delà de l'établissement ou du service lui-même qui les prend sur un temps d'accompagnement. Alors, je pense que notamment la place des partenaires, des lieux culturels dans cette dynamique de projet, elle est intéressante sur cette logique de parcours au-delà de cette action un peu précise sur un temps donné et où on a mis une place particulière à ces personnes.
Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, et j'ai entendu des éducateurs me dire, mais nous, on va continuer à fréquenter le lieu d'une autre façon, ou, mais je sais que telle personne a envie de s'inscrire à la MJC, au conservatoire, après cette histoire de projet. Donc, je me dis, voilà, c'est effectivement une articulation à trouver, mais surtout, bien sûr, ne pas réduire toutes les dynamiques à ça, et toute l'analyse des effets à uniquement cet espace-temps-là. Voilà.
François, il y aura Daniel, et puis après, on redonne la parole à la salle.
D'accord. Donc, effectivement, je pense que là, pour le coup, c'est une question collective qui se pose. C'est-à-dire que moi, je ne me sens pas un artiste spécialisé dans les soins palliatifs. C'est-à-dire que je fais ça parce que ça correspond à une nécessité, et en même temps, dans une certaine fourchette. C'est-à-dire que je ne vais pas passer... Je me rends compte qu'il y a si je dépasse un temps d'engagement dans ces projets, à un moment donné, je peux me perdre. Et donc, je vais être à côté de mes valeurs. Donc c'est aussi moi assumer le fait que j'ai des limites. Par contre, quand je dis que j'ai beaucoup d'espoir sur l'intelligence collective, l'intelligence partagée, la co-construction, c'est-à-dire qu'on a la chance d'être en France avec des structures, pour le coup, institutionnelles, des lieux culturels, des chartes qui viennent de se signer, par exemple, entre les centres médico-sociaux, ça c'est tout neuf. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses qui évoluent quand même. On peut pester que la France... c'est la merde, mais en fait, il y a quand même des belles choses qui se passent. Et notamment, ça se structure, ça. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas combien de compagnies de danse en Rhône-Alpes, mais à une époque, il y en a à peu près 120. Donc je pense que pas tout le monde se sent à même à vouloir faire ce genre de projet-là. Mais il y a un bassin d'artistes, et pas que chorégraphiques. Et puis voilà, il y a cette structuration qu'on a la chance de vivre en France. Il y a des relations publiques dans des théâtres. Enfin, donc ça veut dire qu'ensemble, on peut arriver à essayer de trouver une forme de pérennité. Et j'en termine aussi, c'est que si on peut arriver, notamment quand je travaille avec des gens en situation de précarité sociale ou d'emploi, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, ils passent, quand je parlais de métamorphose, c'est vraiment réel, c'est-à-dire qu'il y a un effet cliqué, ils passent sur un autre endroit de conscience d'eux-mêmes, d'estime de soi, et qu'à un moment donné, ils vont oser rentrer dans un théâtre et donc se trouver en situation d'autonomie plus qu'avant, en regard... d'oser franchir, parce que je me rappelle, Gisèle est là, mais Godard, à un moment donné, je me rappelle à Bénissieux, au théâtre de Bénissieux, on était en résidence, et les gens étaient dans la salle, ils n'osaient pas s'asseoir sur les sièges rouges, parce qu'à un moment donné, ils avaient peur de salir. Donc, si vous voulez, il y a des endroits où on part de loin, mais peu à peu, l'oiseau fait son nid.
Daniel, vite, peut-être.
Oui, juste, pardon. Très court.
Attention à l'eau.
Juste, votre question très pertinente fait dire qu'il y a bien deux lignes temporelles qui cohabitent au service d'objectifs communs. C'est une logique permanente avec les acteurs structurants d'un territoire, et notamment c'est le rôle des institutions d'assurer cette cohérence dans le temps. Et ce qui, d'ailleurs, on l'a mesuré dans différentes recherches, et ce qui fonde la confiance des publics actuels potentiels vis-à-vis d'une institution, c'est quand il y a une cohérence dans le temps de discours et d'engagement. Et puis une ligne ponctuelle autour de projets qui vient dynamiser, qui vient avoir des propositions ponctuelles. Et aussi, on observe qu'il faut savoir arrêter les projets, se faire arrêter les projets pour relancer une autre dynamique, pour déplacer aussi les personnes concernées, et ça c'est une vraie responsabilité aussi en tant qu'acteur qu'on doit porter.
Merci. Alors, j'ai pris une parole tout en haut là.
Sylvie Deller, je suis éducatrice dans une maison des adolescents en Haute-Savoie. J'ai aussi été éducatrice de rue dans la vallée de l'Arve. Et je voulais témoigner en fait de l'intérêt pour moi d'avoir travaillé autour de la rencontre avec la danse contemporaine et des jeunes complètement éloignés de pensée, comme moi-même d'ailleurs, que ça pouvait être intéressant et qu'on pouvait y comprendre quelque chose. Et la première fois que j'y ai compris quelque chose, c'est en écoutant un chorégraphe qui s'appelle François Vérune. Donc, et c'était le début pour moi, voilà, d'enfin je comprenais de quoi il s'agissait et qu'est-ce que je voulais travailler en rencontrant le travail des compagnies qui faisaient de la danse contemporaine. Ensuite, j'ai enchaîné avec Abou Lagra, ce qui est quand même assez costaud également. Mais à chaque fois que j'ai pu emmener des jeunes qui étaient complètement éloignés d'une représentation mentale, on va dire, de ce qu'est le spectacle vivant et une salle de spectacle, et un mouvement dansier qui ne raconte rien et qui ne ressemble pas à des chorégraphies de la Star Academy, c'est à ces moments et à ces endroits que j'ai entendu chez eux les choses les plus pertinentes et les plus sensibles, parce qu'on prenait le risque en fait de leur montrer des choses qui sont complètement en dehors de ce qui se représente à l'avance. à tel point que certains me demandaient s'il allait avoir des gens avec nous dans la salle de spectacle. Ouais. J'en ai dit, bah oui, c'est une salle de spectacle, là, il va y avoir des gens avec nous, oui, des spectateurs, ça s'appelle. Donc, voilà, je voulais dire que ça permettait aussi à ces jeunes de sortir des rôles qui leur sont assignés. Tu ne comprends rien, tu squattes que tes murs, t'as rien à dire de la vie, t'as rien à témoigner sur les émotions qui te traversent. Et que c'est à ce moment-là, pour certains en tout cas, que des choses ont pu se mettre en mouvement dans leur vie voilà, de jeunes adultes désignés délinquants, consommateurs de substances diverses et variées. Enfin bref, voilà. Donc merci la danse contemporaine.
Merci. Une autre peut-être oui.
Bonjour, donc Franceline Voray, je travaille au Centre psychothérapie de Lain, Bourg-en-Bresse. Et donc ma question peut-être pour recentrer sur la question des espaces concrets, en fait, dans les lieux qui ne sont pas des espaces artistiques, comme un hôpital, comme un CESAD, un EHPAD, voilà, je pense à toi, Julia. on en a parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu peux un petit peu préciser la notion d'espace quand tu accueilles des artistes en résidence? L'importance peut-être d'avoir des espaces hors espaces de soins, des espaces dits relationnels. Alors dans les hôpitaux, dans les établissements médico-sociaux ou sanitaires, il y a des cafétérias, il y a l'espace des usagers, qu'on ne sait pas trop à quoi il sert, mais il y a l'espace des usagers. Est-ce qu'il y a d'autres espaces peut-être qui peuvent exister, qui sont des espaces artistiques ou plus largement des espaces relationnels qui peuvent accompagner des artistes en résidence, mais en résidence sur un temps plutôt long, pas une journée et après l'artiste ramène ses valises chez lui pour les ramener le lendemain matin, mais peut-être des temps où l'artiste est là sur une semaine entière avec un bazar dans l'espace, et c'est peut-être ça qui, à un moment donné, fait la présence dans ces hôpitaux ou dans les autres établissements. Donc je ne sais pas, Julia, est-ce que tu peux...
On a des réalités d'espace extrêmement différentes en fonction de nos 72 établissements et services. Certains se sortent tout juste de terre, d'autres sont des anciennes demeures léguées. Enfin, vraiment, on a des réalités extrêmement différentes et ça n'a pas toujours été intégré, ça l'est pas encore totalement, que dans le projet architectural, on va avoir un espace qui va être dédié à ça. Par contre, ça n'empêche pas d'inventer des espaces, notamment parce que il y a quand même un certain nombre d'activités du fait de l'évolution des missions qui font que pas mal de choses se passent de plus en plus à l'extérieur, et c'est un vrai enjeu que des choses se passent à l'extérieur aussi et pas tout dans les murs. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des espaces qui avaient été pensés très dans une logique très interne, on va pas trop bouger. Les choses se libérant, ça laisse des espaces un peu vacants, alors que une partie de l'équipe a récupéré pour faire un bout d'atelier technique, un bout d'atelier art plastique, mais les usages sont pas toujours aussi prédéterminés. Là, ce qu'on a pu négocier sur les résidences d'artistes, enfin de designers, c'est qu'il y a un lieu qui soit dédié à là où il va poser ses outils, là où il va poser sa table et là où il sera pour préparer et montrer un certain nombre de choses. Mais c'est vrai que le lieu est de temps en temps un peu partagé aussi avec d'autres usages. Mais on tenait à ça parce qu'on est convaincu aussi que cette présence, c'est-à-dire quand il est en train de travailler, mais pas directement en participation directe avec les personnes, ou quand il n'est pas là, parce qu'il y a des moments où ils vont être là de 6 à 8 semaines, mais il y aura des creux pendant lesquels ils ne seront pas là, et pour autant, bah, l'imprimante 3D, elle sera peut-être un peu là, les bouts de croquis seront peut-être un peu là, et on sait que c'est à partir de ça que ça peut générer des discussions et des choses qui ne se font peut-être pas sur les temps complètement en présence, vous êtes au moment de la participation, en dehors, non. On sait qu'il y a des choses, enfin, l'intérêt aussi, pour revenir sur la question du temps, c'est que ces présences-là, elles favorisent l'informel et le formel, comment on génère la circulation entre ces moments qui sont bien prévus, ces espaces qui sont bien prévus pour ça, et tous les à côté, et voilà, ça fabrique un peu une expérience qui est riche de ça. Mais voilà, pour répondre, c'est un entre-deux, nos histoires d'espace. On essaie de les prédéterminer, mais ils ne font pas encore partie du projet architectural dédié à ça, voilà.
Merci. On va dire une petite mission
de 5 minutes pour poursuivre. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas, par contre, mentir. C'est-à-dire qu'au sens de... Quand je suis dans mon processus de création, dans un studio, j'ai besoin de conditions favorables. C'est-à-dire que la danse que j'écris est extrêmement physique. Donc ça veut dire qu'une résidence de plus de 3 jours, quelque part, si c'est sur du béton ou du carrelage, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que les danseurs vont se détruire. Donc il y a une question d'intégrité physique très très forte, c'est-à-dire que c'est pas un hasard, en 88, le ministère de la Culture a posé une charte, il fallait avoir un plancher suspendu, etc. Donc si nous on travaille dans la durée, c'est-à-dire que pour vous dire, la création sur laquelle je suis, c'est 16 semaines de travail avec les danseurs de 10h à 18h, donc c'est extrêmement intense, c'est extrêmement physique. Et je ne peux pas aller répéter dans l'EHPAD dont j'ai cité tout à l'heure, dans l'espace public pendant ces semaines. Ce n'est pas possible. Quand on vient une journée, on danse toute la journée, déjà avec des chaussures qui amortissent, etc. Mais néanmoins, c'est-à-dire que l'exigence et l'engagement que ça recouvre pour nous, en tant que danseurs, pour le coup, à ce moment-là, c'est voilà, il y a la santé, quoi.
C'est bien pour ça que je dis ça d'ailleurs, c'est parce qu'on a tendance à vouloir que l'artiste ou l'équipe d'artistes ou partenaire s'adapte au lieu de l'hôpital ou de l'établissement médico-social ou voilà. Mais à quel moment l'établissement s'adapte aussi à recevoir une équipe artistique? Et les questions des espaces en fait sont fondamentales dans l'accueil d'un artiste, sans parler d'un espace dédié que à l'art et à la culture, voilà, mais en tout cas un espace relationnel confortable pour le travail, pour l'accueil aussi des participants, des publics, quels qu'ils soient, et des artistes aussi, quels qu'ils soient.
On peut penser que ça fait aussi partie de la règle du jeu que vous évoquiez tout à l'heure. Allez, peut-être une dernière observation.
Oui, bonjour, Clarissa Malinetti, chargée de production de la compagnie Procès des Zèbres. C'était pour donner un témoignage aussi, parce qu'on travaille depuis longtemps avec des hôpitaux psychiatriques, donc depuis 1985. Et c'est vrai que l'intention de la compagnie, c'est aussi de sortir des lieux de théâtre habituels et travailler dans tout lieu culturel, des lieux patrimoniaux, mais aussi justement des hôpitaux où il y a aussi la culture en soi, comme on disait tout à l'heure. Donc aussi sortir de la stigmatisation de ces patients, des malades, donc avant tout par le personnel de l'hôpital, mais aussi de la part des artistes. C'est pour ça qu'on fait jouer dans nos spectacles aussi des acteurs en situation d'handicap, notamment dans la dernière création de la compagnie Elephant Man, où on a choisi de faire interpréter ces rôles par un jeune en situation d'handicap, justement parce qu'il a les mêmes droits qu'un autre acteur de l'interpréter, et il faut casser aussi ces stéréotypes, il faut justement aussi déranger, comme on disait tout à l'heure, et c'est un peu le but aussi de se dire qui sont les monstres, et effectivement de s'interroger aussi sur le jugement qu'on a, même quand on veut faire du bien, des fois on part du jugement, donc c'est un peu s'interroger aussi en tant qu'artiste, en tant que personne qui intervient dans ces établissements, et c'est vers ça aussi les personnels, effectivement, travailler ensemble dans cette direction-là, de voilà, aller contre cette stigmatisation, voilà.